7h25 minutes. On sait donc depuis hier que Théo Taxi a cessé ses opérations. On parle de quoi, 400 chauffeurs environ, une centaine d'employés affectés aux différentes tâches. Le premier ministre Legault dit qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir. Et aujourd'hui, Alexandre Taillefer, qui est le fondateur de Théo, publie une lettre d'opinion adressée d'ailleurs au premier ministre, dans laquelle il dit vouloir sauver l'esprit de Théo. Il est avec nous ce matin, M. Taillefer. Bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Avant de parler des propositions que vous faites, je pense que ce serait important de faire une espèce de bilan pour nos auditeurs. Toute l'opération Théo, quand on fait le total, ça représente combien d'investissements? On sait que les joueurs importants, c'est la Caisse, les fonds de travailleurs, Investissement Québec, puis bon, des partenaires aussi. On a mis combien d'argent dans Théo au cours des années?
Écoutez, si on prend les subventions du gouvernement, on a eu une subvention de 5 millions d'euros liée à l'électrification. Il y a eu d'autres subventions qui sont des subventions que tout le monde peut avoir, là, les programmes de crédit d'impôt, recherche et développement ou les subventions à l'achat de véhicules électriques. Il y a également eu des financements bancaires, donc la Banque nationale a mis de l'argent là-dedans. Il y a eu des financements sur les voitures et il y a eu, je vous dirais, probablement autour de 45 millions d'euros d'équité qui ont été injectés là-dedans.
OK. Votre part à vous, parce que là, les gens se disent, OK, là, les créanciers perdent de l'argent, mais Alexandre Taillefer, il a mis combien, lui, là-dedans?
Alors, de la façon dont ça fonctionne, moi, je suis un investisseur dans des fonds, les fonds Expand que je dirige. Et dans les fonds, j'ai mis 6 millions d'euros de mon argent, ce qui représente une partie substantielle de ce que je possède.
Est-ce que ça veut dire que vous, là, pour que les gens comprennent bien, vous perdez 6 millions dans cette affaire-là?
Je ne perds pas 6 millions de la même façon que la Caisse de dépôt ne perd pas le montant parce qu'ils sont actionnaires d'un fonds dans lequel on a d'autres investissements. On est dans d'autres entreprises, mais dans le 26,5 millions de dollars de Théo, tous les actionnaires vont perdre cette somme-là au complet.
Donc, ça représente une perte de combien pour vous?
Écoutez, probablement autour d'1,5 million.
Dans votre argent personnel.
Oui. Mon REER y a passé là, parce qu'on a dû financer des appels de capital beaucoup plus importants que ce que j'avais prévu. Alors, quand on est un entrepreneur, vous le savez, on n'a pas de fonds de pension. Alors, pour moi, c'est une perte extrêmement matérielle.
Quelle est votre part de responsabilité dans l'échec de Théo?
Importante, bien entendu. Je vous dirais qu'il y a des leçons que je retiens de ça qui sont importantes. Et on a eu plusieurs pépins. J'aurais aimé ça, je vous dirais, être là à temps plein comme entrepreneur. Et j'ai agi davantage comme investisseur. Ça, je me le reprocherai toute ma vie.
De pas avoir quoi mis la main à la pâte davantage dans les opérations.
Je pense que j'aurais dû être assis là à temps plein, donc ne pas être un investisseur, mais l'entrepreneur que j'étais de façon perceptuelle de toute façon auprès de la population.
Souvent, on voit des entreprises, puis Uber est un exemple, où il n'y a pas de profit encore au rendez-vous, puis les investisseurs réinvestissent dans l'entreprise. Est-ce que ce modèle de Théo, un jour, si on avait eu les reins plus solides et plus d'argent, aurait fini par marcher ou si, selon vous, c'était voué à l'échec?
Non, je continue à croire que ce modèle-là peut fonctionner. Ça aurait nécessité encore davantage de capital. On n'était pas loin. On générait aujourd'hui autour de 25 $ de l'heure. Notre seuil mort était autour de 30 $, plus élevé que ce qu'on avait prévu initialement. Mais on perdait 5 $ de l'heure par voiture. Alors, c'était pas viable à court terme.
OK. Qu'est-ce qui a pas marché? Bon, on sait là, d'abord, ce que je comprends, c'est que le coût de l'opération des taxis électriques, ça a été plus élevé que ce que vous aviez anticipé.
Oui, il y a des coûts plus importants, entre autres au niveau des recharges des voitures. C'est quelque chose qui nous a échappé initialement. Alors, on a rapidement compris, par contre, que l'autonomie des voitures n'était pas suffisante pour un shift et l'hiver, c'était encore pire. Alors, toute la question de la gestion de la recharge a été un casse-tête. Maintenant, c'est pas quelque chose qui ne pouvait pas être réglé. Quand on a lancé ce projet-là, et encore une fois, je suis responsable de ça, j'ai cru que les voitures électriques avec une plus grande autonomie sortiraient beaucoup plus rapidement. On se rappellera que les premières commandes qu'on a faites, c'est il y a presque 4 ans. À l'époque, la voiture avait une autonomie d'une centaine de kilomètres, 120 kilomètres l'été. Et moi, je me suis dit, 2 ans plus tard, ces voitures-là vont être disponibles et vont pouvoir avoir une plus grande autonomie. Les voitures équivalentes à ce qu'on a aujourd'hui sortent cette année, vont sortir au mois d'avril, des Kia avec des batteries de 65 kWh qui nous auraient permis de faire des chiffres au complet sans changer la voiture. Mais malheureusement, il sera trop tard.
OK. Acheter des Tesla, est-ce que c'est une bonne idée compte tenu du prix quand même, on sait, très élevé de ces véhicules?
En fait, si vous regardez le coût d'opération d'une Tesla versus une Kia, on arrive à peu près au même. Parce qu'une Kia doit être rechargée une fois par shift et qu'on paye nos employés à l'heure. Il y a une charge aujourd'hui d'autour de 15 à 20 $ par charge. Donc, c'est ça que ça nous coûte d'un point de vue opérationnel. Si on le rapporte, on le ramène sur une base horaire, ça représente à peu près le même coût supplémentaire qu'une Tesla pour le coût d'amortissement. Donc, les deux sont différents. Maintenant, il y a un élément fondamental. On se rappellera qu'on voulait, nous, pouvoir charger plus cher pour avoir un service comme Uber. Uber Select offre un service plus dispendieux que Uber de base et le cadre réglementaire nous a empêché de pouvoir monétiser des voitures de qualité.
On va y revenir parce que ça fait partie des recommandations, des suggestions que vous faites au premier ministre pour compléter sur le volet financier. Bon, vous avez parlé des partenaires, de vos investissements comme individu, puis à travers votre fonds également. La question qui revient constamment depuis le début, là, des mauvaises nouvelles concernant Théo, est-ce que le fait d'avoir été associé au Parti libéral, est-ce que le fait d'avoir été président de la campagne électorale du Parti libéral a permis à Alexandre Taillefer et à Théo obtenir des investissements qu'un autre investisseur n'aurait pas eu? Donc, les liens, est-ce que la politique a joué dans l'argent qui a été versé à Théo?
En fait, c'est exactement l'inverse. Je pense que ça a nuit énormément à Théo, le fait que j'ai pris cette décision-là. Je vous le rappelle, au mois de juin 2018. Le financement initial, donc la subvention, on parle de 2015. J'avais absolument aucun lien avec le Parti libéral à ce moment-là. On est allé présenter un projet très ambitieux au gouvernement qui avait un enjeu avec l'arrivée de joueurs étrangers, avec une industrie qui était dans une situation difficile. Et ils ont vu ça comme un projet fort intéressant avec beaucoup de potentiel. Donc, absolument pas.
Si le Parti libéral avait gagné l'élection, est-ce que ça aurait été plus facile pour Théo?
Le Parti libéral était aujourd'hui en contrôle du gouvernement et tous les changements réglementaires qu'on se tue ou qu'on s'est tué à vouloir obtenir, on les a pas obtenus. Alors, il faut faire bien attention. Là. Il faut bien comprendre qu'il y a des murs de Chine qui existent aujourd'hui, par exemple, avec la Commission de transport du Québec, qui est une cour administrative, et le reste du gouvernement. Ce qui aurait été important pour sauver Théo, c'est d'assouplir le cadre réglementaire. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas été fait.
OK. Puis parlons-en du cadre réglementaire. Là, vous dites, par exemple, au niveau des tarifs, il n'y avait pas une possibilité, contrairement à Uber, à offrir un tarif variable.
Exact.
Premièrement. Deuxièmement, je lis dans votre texte ce matin que les véhicules, compte tenu des règles qui existent, ne seront pas réutilisés parce qu'ils ne correspondent pas aux normes en termes de grosseur de véhicules qui sont fixées. C'est exact, ça?
C'est tout à fait vrai. Il manque, je pense, 4 cm là, ou 5 cm pour que la Kia puisse être utilisée dans le reste de l'industrie. Donc, toutes ces voitures-là qui sont déjà prêtes à être utilisées par des travailleurs autonomes qui nous permettraient aujourd'hui de migrer vers un modèle différent ne pourront pas être utilisées. En ce qui concerne l'aspect tarifaire, et ça, c'est une grande erreur que j'ai faite. À la base, on a monté un modèle avec un taux d'occupation de 50 % de nos voitures, avec un taux horaire, si la voiture est pleine, de 60 $ C'est très, très important de comprendre ça et c'est à la base du problème de Théo. On a obtenu notre taux d'occupation de 50 % qui est 60 % plus élevé que le reste de l'industrie traditionnelle. Malheureusement, à Montréal, à cause des enjeux de circulation, 50 à 60 % du temps, on fonctionne au tarif à la minute. Et le tarif à la minute nous permet de faire 40 $ de l'heure quand on est occupé à 100 % et non pas 60 $ de l'heure. Et ça, aujourd'hui, est à la base du problème de Théo. Malgré ça, on a réussi à faire 25 $ de l'heure. Mais si on avait réussi à obtenir un changement réglementaire pour augmenter le tarif à la minute, aujourd'hui, les opérations auraient été probablement au seuil de rentabilité, au seuil mort.
Et si je reviens aux véhicules, ils vont, quand vous allez les vendre, en fait, ça sera liquidé?
Là. Ils vont être liquidés, ils vont être retournés au prêteur.
OK. Vous dites également que vous souhaitez que le gouvernement du Québec récupère, pour sauver l'esprit Théo, là, entre autres au niveau de la technologie. Taxelco demeure quand même propriétaire de Diamond, d'Hochelaga. Est-ce que vous voyez une espèce de migration, par exemple, des applications, de la technologie qui a été développée?
Écoutez, on a une application qui continue à fonctionner. Vous êtes en mesure aujourd'hui d'appeler des taxis Diamond. Si on regarde l'évolution de cette technologie-là, on devrait être en mesure de pouvoir mettre le reste de l'industrie sur cette plateforme-là et d'avoir vraiment une offre extrêmement compétitive, à être capable de noter les chauffeurs comme d'autres applications le font. Donc, il faut bien comprendre que Taxelco n'est plus à nous. Taxelco a été repris par la banque. Donc, Taxi Hochelaga et Taxi Diamond ne nous appartient plus. Ça appartient aujourd'hui à la banque. Mais oui, il y a quelque chose à faire pour pouvoir offrir un service de qualité à l'ensemble de la population.
Je reviens encore sur le modèle d'affaires. Vous avez dit à quelques reprises depuis le début, là, ça c'est ma responsabilité, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bon. Il y a des gens qui disent, ouais, mais vous êtes un homme d'affaires averti. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu les signaux? Pourquoi il n'a pas débarqué un jour en disant, là, je me mets les deux mains dedans puis on va redresser ça?
C'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises, en termes, entre autres, réglementaires. À un moment donné, il a fallu qu'on mette notre pied à terre en disant au gouvernement que s'il n'y avait pas des changements qui arrivaient immédiatement, entre autres, on a été limité en termes de nombre de voitures. Et le gouvernement ne nous a pas permis d'augmenter notre nombre de voitures pendant 9 mois. Ces 9 mois-là nous ont coûté des millions et des millions d'heures. Alors, il a fallu à plusieurs reprises qu'on mette notre pied à terre. Mais il faut comprendre que utiliser les médias, mettre son pied à terre, cogner sur la table, ça fonctionne une fois de temps en temps. Mais on ne peut pas utiliser cette méthode-là à chaque fois avec les instances gouvernementales.
Est-ce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes de gestion interne? Il y a eu quand même un roulement de DG. Il y a eu, moi, j'ai eu des échos d'employés qui me disent qu'il y avait comme la gang des chauffeurs puis les autres là, qui s'occupaient de la gestion. Est-ce qu'il y avait un problème de gestion ou de culture d'entreprise?
Quand on part d'une entreprise de 0 personne à 600 employés en 3 ans, on appelle ça en anglais des « growing pains », c'est évident que le profil, par exemple, des employés du départ n'était pas nécessairement adéquat pour gérer la suite. Je vous dirais l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de fonctions qui étaient faites de façon humaine qui étaient petit à petit remplacées par de la technologie. Alors, on a accepté probablement des comportements qui n'étaient peut-être pas les plus efficaces possibles, sachant que les algorithmes allaient petit à petit nous permettre d'augmenter la productivité de l'entreprise.
Le fait que les employés se soient syndiqués, un problème ou pas?
Pas du tout. Je dis, je le répète, je pense que plus une société est syndiquée, plus une société va être équitable. Et je reviens sur cet élément-là. Quand on parle de la philosophie de Théo, c'est une philosophie écologique et c'est une philosophie sociale. À la base, on s'attaquait à un enjeu fondamental, les conditions indécentes des chauffeurs de taxi. C'est vrai de chez Uber et c'est vrai du taxi traditionnel. Et c'est ce qu'on a voulu corriger. Et malheureusement, on n'y sera pas arrivé.
OK. Quelques questions en terminant. D'abord, est-ce que vous avez essayé de vendre Théo Taxi ou Taxelco? Est-ce que vous avez magasiné des acheteurs potentiels?
Oui, on a fait le tour de la planète et l'enjeu auquel on a fait face, c'est un enjeu où il y a 3 parties. Il y a une partie Théo opération qui perd de l'argent, il y a une partie taxi traditionnel qui fonctionne, qui continue à être profitable et il y a la technologie. Et les 3 étaient amalgamés ensemble. De trouver un investisseur, un profil d'investisseur pour mettre de l'argent dans les 3, ça a été difficile. Je suis confiant aujourd'hui que si Théo Techno peut survivre, donc tout le département de technologie, l'algorithmie, l'intelligence artificielle qui est en arrière de ça, on va trouver parce qu'on avait énormément d'intérêts de très, très gros joueurs internationaux.
Okay. Vous avez dit tantôt, bon, j'ai fait des erreurs et j'assume ma responsabilité. Est-ce que de devenir président de la campagne du Parti libéral, c'était une erreur?
Définitivement.
Vous le regrettez?
Je le regrette.
Est-ce que vos ambitions politiques s'en vont dans le garde-robe? Autrement dit, est-ce que vous renoncez peut-être à même réfléchir à l'idée d'être candidat à la direction du Parti libéral du Québec?
Je ne me présenterai pas comme candidat à la prochaine élection d'un chef de parti. Ça n'arrivera pas. Maintenant, je vous dirais une chose. C'est que s'entourer de gens qui ont des cicatrices, c'est une chose qui est très importante. Quand les gens ont connu l'échec, et quand ils ont connu l'échec, habituellement, ils ne feront pas cet échec-là ou cette erreur-là 2 fois. On valorise beaucoup l'échec dans d'autres sociétés. Au Québec, c'est un peu plus difficile.
OK. Ce que vous dites, là, vous êtes quoi? Un meilleur, vous serez un meilleur gestionnaire à partir de l'échec que vous venez de vivre?
je pense que je suis un bien meilleur gestionnaire aujourd'hui, 4 ans plus tard, que je l'étais précédemment. J'ai connu dans le passé énormément de succès avec beaucoup d'entreprises. Je continue aujourd'hui à être présent dans probablement une douzaine ou une treizaine d'entreprises au Québec. Mais quand on mange le genre de claque que je mange, un, ça nous rend beaucoup plus humble, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais deuxièmement, on comprend bien davantage des signaux qui vont nous permettre de mieux gérer dans l'avenir.
La politique, c'est fini.
La politique, c'est fini. Je vais toujours vouloir servir le bien commun. Ce qui m'excite aujourd'hui, c'est de trouver des solutions à des problèmes de notre société. J'ai essayé de le faire avec Théo. Ça n'a pas été un succès, mais je continue de le faire à plusieurs égards à ma manière. Alors, on verra ce que l'avenir nous réserve.
M. Taillefer, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Au revoir. 7h40 minutes.